Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Cela fait 4 milliards et demi d'années qu'elle est notre plus proche voisine cosmique. La Lune habite littéralement notre ciel, jour et nuit. À partir du moment où l'homme aura conscience de sa présence, il lui attribuera toutes sortes de pouvoirs, bénéfiques ou maléfiques. Attendez une seconde. Ah oui, je me suis trompé de texte. J'ai ressorti le premier épisode du feuilleton réalisé en 2019 de La Terre à la Lune. Oups. Vous aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune. Le premier auteur à évoquer un voyage vers la Lune, c'est Edmond Rostand, vers 1650, avec son célèbre Cyrano. Il essaiera à deux reprises, une fois avec des fioles remplies de rosée, pourquoi pas, mais ce sera un échec, et une seconde fois à bord d'une fusée. Là, ce sera une réussite. Jules Verne, quant à lui, y envoie des hommes au moyen d'un canon, en 1865. Georges Méliès mettra des images sur un récit similaire dans un de ses premiers films, Le Voyage dans la Lune, en 1902. Les explorateurs y rencontrent les Sélénites et la rencontre est chaotique. En général, les œuvres qui évoquent la Lune ne font pas mention d'habitants. Mais le peu de fois où c'est le cas, comme pour les personnages de Méliès, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais j'y reviendrai plus tard. Bon alors, à qui le tour d'y aller ? Hergé, dans une période moderne, qui consacrera deux albums à la conquête lunaire. Dans Objectif Lune, ce sont les préparatifs qui y sont dépeints sur fond d'espionnage. Dans On a marché sur la Lune, c'est l'exploration scientifique de la Lune qui est mise en avant, avec justesse. La pesanteur plus faible que sur Terre est bien démontrée lorsque les Dupont s'amusent comme des gamins à faire des bonds énormes. Le retour, par contre, sera beaucoup moins joyeux, comme je l'évoque dans l'émission précédente. Le suivant au cinéma sera Stanley Kubrick, pour le deuxième acte du film 2001, L'Odyssée de l'espace, en 1968. Film inspiré de la nouvelle La Sentinelle de Arthur C. Clarke. Des astronomes découvrent en explorant la mer des crises, si si elle existe, une pyramide en cristal qui date de 2 milliards d'années. Pour le film, il y a eu quelques modifications. La pyramide est devenue un monolithe noir de forme rectangulaire. Personnellement, je trouve qu'on y gagne en change. Toujours est-il que le monolithe garde la même fonction. Signaler à ses propriétaires que les humains ont acquis les compétences pour parvenir à explorer la Lune. Simple information ou message d'alerte. Dans 2001, on parle d'une colonie sur la Lune. Ça est un fantasme récurrent. Dans plusieurs œuvres, l'homme vit de façon pérenne sur notre satellite. Mais ce n'est pas forcément un Éden à l'abri des turpitudes terriennes. Tycho Moon de Enki Bilal, sorti en 1997, décrit une colonie qui ressemble beaucoup à Paris. À ceci près qu'elle est à moitié ensablée et dans un état avancé de décrépitude. Elle est gouvernée par un président dictateur, condamné par la maladie et la misère y règne en maître. Bref, elles vont pas durer. Il y a un autre exemple de colonie, à long terme cette fois, près de 70 ans, sur la face cachée de la Lune, pour le côté mystérieux. Iron Sky, sorti en 2012, nous raconte l'histoire d'une base lunaire édifiée en 1945 par des nazis. Voilà, voilà. Au-delà du caractère loufoque et complotiste du film, on y décèle quelques piques lancées à l'administration américaine, surtout à la présidence occupée par une sosie de Sarah Palin. Vous savez, la colistière de John McCain aux élections présidentielles des États-Unis en 2008. Elle était gouverneure de l'Alaska et tuait des ours pendant ses loisirs. Donc, les nazis de la Lune attaquent la Terre, mais la riposte terrienne s'organise et va détruire leurs installations lunaires. À cette occasion, ils découvrent d'immenses réservoirs contenant de l'hélium-3. L'hélium-3 est un gaz. Bon, jusqu'à là, ça va. Présent en grande quantité sur la Lune. On parle de 100 000 tonnes. Pour info, il en suffirait de 25 pour alimenter en énergie un pays comme les États-Unis pendant un an. D'où une convoitise pour le moins exacerbée. Ce qui mènera donc les Terriens à se faire la guerre pour contrôler ses réserves. L'hélium 3 est l'élément de base d'un autre film, Moon. Dans ce long métrage, réalisé par Duncan Jones et sorti en 2009, l'exploitation de l'hélium 3 est rodée. Le héros, Sam Bell, est un technicien qui gère le bon fonctionnement d'une station d'extraction. Ces dernières sont tellement automatisées qu'il est le seul humain présent. Il est accompagné d'une intelligence artificielle, Gertie, qui l'aide dans sa tâche. Sam est presque arrivé au bout de son contrat de 3 ans et commence à souffrir de la solitude. 3 ans avec pour seule compagnie un robot, ça peut en effet peser sur le moral. Un jour, une machine a un problème lors de l'extraction. Sam se rend alors sur place pour réparer, mais il est victime d'un accident. Il se réveille peu après dans la station, apparemment indemne. Mais il va commencer à subir des hallucinations. En effet, un homme qui est son parfait sosie et qui dit s'appeler Sam apparaît comme par magie dans la station. Je ne vais pas vous divulguer la fin. Elle est assez cynique et témoigne d'une certaine vision du capitalisme et d'une recherche du profit à tout prix. C'est un film à petit budget, mais qui montre que l'on peut initier une atmosphère et une intrigue avec peu de moyens. Et dans ce cas-là, c'est réussi. Dans Ad Astra de James Gray, sorti en 2019, la Lune est une base avancée pour les expéditions interplanétaires. La Lune étant plus petite que la Terre, la gravité est moindre. 6 fois plus faible pour être précis. Le lancement de fusée est donc simple et moins gourmand en énergie. Sauf que pour James Gray, la Lune est un nouveau Far West, avec ses grandes étendues sillonnées par des convois de transport de matériel et ses bandits de grand chemin. Ce qui nous donne une séquence digne d'une attaque de diligence mêlée à une course-poursuite entre plusieurs rovers lunaires. Donc, pour le moment, les voyages se font plutôt dans le sens Terre-Lune, à l'exception d'Iron Sky. Mais pour le match retour, ce sont les Terriens qui se déplacent. Alors, est-ce qu'à un moment, des habitants de la Lune se décident à « descendre » entre guillemets ? Dans la série animée Goldorak, diffusée à partir de 1978 sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2 pour les plus jeunes, la Lune est la base de l'Empire de Vega, un ennemi extraterrestre qui cherche à conquérir la Terre. Et il y envoie régulièrement des monstres, des Golgoth, pour semer le chaos et la mort. Mais le souci, c'est que lorsqu'une attaque est organisée, la Lune change de couleur, elle devient rouge. Avouez que pour la description, on repassera. Dans certaines œuvres, la Lune y est seulement évoquée, mais elle prend cher, comme disent les jeunes. Dans le film La machine à explorer le temps, version 2002, elle explose en partie suite à un forage à la bombe atomique. Ben voyons. Joseph Kosinski, pour sa part, dans Oblivion, la coupe en deux, tout simplement. Avec des conséquences cataclysmiques sur la Terre, bien évidemment. Mais dans le domaine de la maltraitance de la Lune, la palme est remportée par la série Cosmos 1999. Nous sommes en 1999, vous l'aurez deviné. La colonisation de la Lune est en bonne voie et l'on se prépare à lancer une mission d'exploration de la planète Méta, qui semble disposer d'une atmosphère favorable à la vie humaine. En plus d'une base d'exploration, la Lune accueille également des zones de stockage de déchets radioactifs. Et c'est ça qui va poser problème. Quelle surprise! Des phénomènes magnétiques inconnus provoquent en premier lieu des décès parmi le personnel. Rapidement, l'équipe se rend compte que les déchets sont instables et chauffent anormalement. Une opération est décidée pour éparpiller les conteneurs à déchets pour réduire la chaleur. Mais trop tard. Le stock explose et la Lune est arrachée de son orbite autour de la Terre. Elle s'échappe à une telle vitesse qu'il est impossible aux occupants de la base de se réfugier sur Terre. Et les voilà condamnés à errer dans l'espace, sans but précis, avec pour premier objectif de tenter de survivre et ensuite de faire de la Lune un endroit vivable, tout en devant faire face à de nombreux dangers. Cette série, créée par Jerry et Sylvia Anderson, est diffusée pour la première fois en 1975 en France. Son inspiration esthétique est clairement basée sur celle de 2001, Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. On est clairement dans les années 70, entre autres pour le générique. Cette série ne connaîtra malheureusement pas de fin et contraindra les personnages à errer dans l'espace. Astre le plus proche de notre bonne vieille Terre, la Lune a nourri beaucoup de fantasmes et en suscite encore. Mais maintenant que l'on sait que c'est un monde mort, l'intérêt pour notre satellite est moindre, à l'exception des poètes et des astronomes. Elle fait moins rêver que Mars la Rouge, mais elle est là, quasiment à portée de main. Il y a 50 ans, des hommes s'y sont rendus en 3 jours. De multiples projets, plus ou moins farfelus, au sujet du retour de l'homme sur la Lune, sont sur la table. Gageons qu'ils inspireront de nombreux rêveurs et que notre satellite redeviendra un nouveau terrain d'aventure. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Pour le conseil de lecture de ce mois-ci, Guillaume de l'association La 29e Dimension va nous parler d'un livre qui est tristement d'actualité, si on peut dire.
En effet, donc Le successeur de Pierre, écrit par Jean-Michel Truong, édité en France une première fois chez De Noël, puis en format poche chez Folio SF. Il est important de préciser pour la suite que ce roman fut publié en 1999. Pendant le confinement, j'ai lu beaucoup de science-fiction, et notamment ce roman, Le successeur de Pierre. C'est un adhérent de l'association de science-fiction La 29e Dimension, basée à Quimper, qui m'a conseillé cette lecture. D'ailleurs, je l'en remercie et lui dédicace ce conseil. Coucou David. Lire Le successeur de Pierre pendant le confinement relève d'une forme de mise en abîme. Et pour cause, le héros vit depuis sa naissance confiné dans son cocon, situé à l'intérieur d'une gigantesque pyramide dans laquelle une grande partie de l'humanité a trouvé refuge. Mais voici le résumé. Cela fait des siècles que la bulle de Pierre, écrite par le premier pape, est perdue. Objet de toutes les convoitises, la teneur de son message n'est connue que des souverains pontifes, successeurs de l'apôtre de Jésus. Pour le jeune Calvin, isolé dans son cocon à l'intérieur d'une des immenses pyramides où s'est réfugié la quasi-totalité de l'humanité, il y a des mystères bien plus immédiats. Pourquoi a-t-il été séparé de sa mère? Qui sont ses amis avec lesquels il ne communique que par web interposé et qui se cache derrière des avatars au nom faussement transparent? Et pourtant, se peut-il que tous ces faits soient liés aux manuscrits disparus? Mêlant thriller et science-fiction, Le successeur de Pierre est un roman passionnant où le suspense le dispute à l'érudition, une réussite justement récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2000. Je me rappelle cette lecture sur mon balcon ensoleillé pendant le confinement, avec cette drôle d'impression de lire mon quotidien. Durant cette période étrange, nous avons entendu des termes comme « geste barrière », « attestation de déplacement », « Covid-19 »,« confinement » ou encore « distanciation sociale ». Tout cela se retrouve dans Le successeur de Pierre avec une avance de 20 ans. D'ailleurs, pour éclaircir mes propos, je vais vous lire un passage situé au début du livre. De la grande peste, Tache ne savait que ce que les anciens lui avaient enseigné, bien avant sa naissance, un virus satanique, né comme toute authentique diablerie de la haine et de l'habileté d'un homme, avait terrassé la planète. En quelques années, un tiers de l'humanité avait péri à la suite de cette catastrophe. Une idée avait germé dans les plus hautes sphères du pacte. Elle tenait en deux mots, zéro contact. Pour éviter la propagation du mal et prévenir sa répétition, le plus simple était de prohiber tout contact physique. La survie de l'espèce humaine était à ce prix. Pas une voix ne s'était élevée pour critiquer la proposition, ou s'il s'en était trouvé, nul ne l'avait entendu. Les think tanks Quimper avaient établi de savantes projections, les cénacles savants débattus, les ingénieurs calculés, les politiques délibérées. Pour finir, on avait accouché de la Convention internationale zéro contact, qui rendait légale la plus grande entreprise de réingénierie des populations jamais osée dans l'histoire de l'humanité, le grand enfermement. Il n'est pas difficile de faire la comparaison entre zéro contact et gestes barrières, grande peste et Covid-19, grand enfermement et confinement. Un parallèle surprenant entre fiction et réalité. Le héros se nomme Calvin, c'est un jeune homme qui n'est jamais sorti de son cocon. Il gagne sa vie en réalisant des missions web jobs en télétravail, une pratique qui s'est fortement développée pendant le confinement, et se nourrit de Mad Burger produit par Madco. Quand Calvin ne télétravaille pas, il se promène dans le Wonderworld, équivalent des jeux de rôle en réalité virtuelle massivement multijoueur, où il s'assume jusqu'au jour où le Wonderworld est piraté. Panique dans les pyramides. Immédiatement, Calvin commente cette information avec sa communauté par écran interposé. Ses potes ont des noms d'avatars, il y a Nietzsche, Rembrandt, Ada, Shen, Thomas. Tous font preuve d'hypocrisie et de faux-semblants. Au fur et à mesure, Calvin finira par découvrir leur véritable identité. Pour briser la barrière de la solitude, le pacte, à l'origine du zéro contact et des pyramides, a inventé les polochons. Le mot évoque un coussin ou des oreillers pour un confort de sommeil et pour cause. La technologie des polochons permet à deux personnes de se rencontrer dans un cocon et plus si affinité, si vous voyez ce que je veux dire. Le polochon est une sorte d'android accueillant des avatars, un dispositif holographique permettant de reproduire une image favorable de celle ou celui incarnant le polochon avec toutes les dérives que cela implique. Mais garantie, zéro contact. De nombreux mystères entourent la vie de Calvin, mais je n'en dirai pas plus, je préserve le plaisir de lecture. Et enfin, il y a Tash, un natif américain qui survit dehors à l'extérieur des pyramides. D'ailleurs, il les escalade, ces pyramides, pour détecter leurs failles et libérer ceux à même d'affronter l'extérieur. Il fait partie des No Plugs. Une citation permet de comprendre ce mouvement. La voici. Le destin de cette larve, larve surnom donné par les No Plugs à ceux qui vivent dans les pyramides, était de mourir avec les autres quand la ligne de démarcation atteindrait son étage. Il n'y pouvait rien et au fond, c'était tout ce qu'elle méritait. Son devoir à lui, No Plug, était de vivre selon l'éthique et lorsque enfin retentirait l'appel, d'exécuter fidèlement son mandat et ainsi seulement s'accomplirait la promesse. J'ai particulièrement apprécié la lecture du roman Le successeur de Pierre. La pertinence de l'intrigue révèle une authentique prospective qui fit écho pendant le confinement et cela avec 20 ans d'avance. L'intrigue principale se déroulant en l'an 2032, la réalité avec le Covid-19 semble venue en avance. Politique et religion s'interpellent dans ce roman, incarnation des nantis de cette société à huis clos. Au final, la vérité est dévoilée, mais plus que tout, la liberté est célébrée. Lisez Le successeur de Pierre.
Merci Guillaume, et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».